Much exécuta l'ordre qu'il venait de recevoir, et bientôt le haut de la baguette se montra perpendiculairement à travers le cercle formé par les fleurs. Maintenant, mes garçons, cria Robin, visez la baguette. Celui qui manquera son coup me fera don d'une bonne flèche et recevra un soufflet. Attention, car par Notre-Dame, je n'épargnerai pas les nigauds. Il est bien entendu que je tire avec vous et que, en cas de maladresse, je subirai la même punition. Plusieurs forestiers manquèrent le but et reçurent avec bonne grâce un vigoureux soufflet. Robin Hood brisa la baguette en morceaux, une autre fut mise à sa place. Oui, les petits gens manquèrent le but et, au milieu des éclats de rire de tous les assistants, ils reçurent la récompense de leur maladresse. Robin envoya le dernier coup, mais désirant montrer au faux abbé que, dans un pareil cas, il n'y avait aucune distinction entre ces hommes et lui, il manqua volontairement la baguette. « Ah ah ! » cria un yeoman étonné. « Vous vous êtes écarté du but, maître. »« C'est ma foi vraie, et je mérite la punition. Lequel de vous se charge de me caresser la joue ? Toi, petit Jean, tu es le plus fort de nous tous, et tu sauras frapper ferme. » « Je n'y tiens pas le moins du monde, répondit Jean. La mission est désagréable, en ce sens qu'elle me brouillerait à jamais avec ma main droite. » « Eh bien, oui, je m'adresse à toi. »« Merci, Robin. Je refuse de tout cœur de te faire ce plaisir. »« Je refuse également, » dit Much. « Moi aussi, » cria un homme. « Et nous de même, » ajoutèrent les forestiers d'une commune voix. « Tout cela est d'un enfantillage ridicule, » dit Robin d'un ton sévère. « Je n'ai pas hésité à punir ceux qui s'étaient mis en faute. Vous devez me traiter avec la même égalité. » Et par conséquent, avec autant de rigueur. Puisqu'aucun de mes hommes n'ose porter la main sur moi, c'est à vous, sœur abbé, qu'il appartient de vider la question. Voici ma meilleure flèche, et je vous prie, messire, de me servir aussi largement que j'ai servi mes archers maladroits. Je n'ose prendre sur moi de te satisfaire, mon cher Robin, répondit le roi en riant, car j'ai la main lourde et je frappe un peu fort. « Je ne suis ni sensible ni délicat, sœur abbé. Prenez-en à votre aise. »« Tu le veux absolument, » dit le roi en mettant à découvert son bras musculeux. « Eh bien, tu vas être servi à souhait. » Le coup fut si rudement appliqué que Robin tomba à la renverse. Mais il se releva aussitôt. « Je confesse à Dieu, » dit-il, les lèvres souriantes et le visage tout empourpré, « que vous êtes le plus robuste moine de la joyeuse Angleterre. » Il y a trop de force dans votre bras pour la tranquillité d'un homme qui exerce une sainte profession, et je parie ma tête, elle est estimée à 400 écus d'or, que vous savez mieux tenir un arc ou jouer du bâton que porter une croix. C'est possible, répondit le roi en riant. Ajoutons même, si tu veux, manier une épée, une lance ou un bouclier. Votre discours et votre manière d'être révèlent plutôt un homme habitué à la vie aventureuse du soldat comme pieux serviteur de la très sainte Église, reprit Robin en examinant le roi avec attention. Je désirerais beaucoup savoir qui vous êtes, car d'étranges pensées me viennent à l'esprit. Chasse ces pensées, Robin Hood, et ne cherche pas à découvrir si je suis ou non l'homme que je représente devant toi, répondit vivement le prince. Le chevalier Richard de la Plaine, qui était absent depuis le matin, parut en ce moment au centre du groupe et s'approcha de Robin. En apercevant le roi, le chevalier tressaillit, car la figure du prince lui était parfaitement connue. Il regarda Robin, le jeune homme paraissait ignorer complètement le rang élevé de son hôte. « Connais-tu le nom de celui qui porte le costume d'un moine supérieur ?» demanda Sir Richard à voix basse. « Non, répondit Robin, mais je crois avoir découvert depuis quelques minutes que ses cheveux roux et ses grands yeux bleus ne peuvent appartenir qu'à un seul homme au monde, à… »« Richard, cœur de lion, roi d'Angleterre !» s'écria involontairement le chevalier. « Ah ah !» fit le faux moine en se rapprochant. Robin Hood et Sir Richard tombèrent à genoux. « Je reconnais maintenant l'auguste visage de mon souverain, » dit le chef des Outlaws. C'est bien celui de notre bon roi Richard d'Angleterre. Que Dieu protège sa vaillante majesté. » Un bienveillant sourire épanouit les lèvres du roi. Sire, continua Robin, sans quitter l'humble posture qu'il avait prise, votre majesté connaît maintenant qui nous sommes, des proscrits chassés de la demeure de nos pères par une injuste et cruelle oppression. Pauvres et sans abri, nous avons cherché un refuge dans la solitude des bois. Nous avons vécu de chasse, d'aumônes, exigées sans doute, mais sans violence et avec les formes de la plus prévenante courtoisie. On nous donnait de bonnes ou de mauvaises grâces, mais nous ne prenions pas, sans être bien certains, que celui qui refusait de venir au secours de notre misère portait dans son escarcelle la rançon d'un chevalier. Sire, j'implore de votre majesté la grâce de mes compagnons et celle de leur chef. Lève-toi, Robin Hood, répondit le prince avec bonté, et fais-moi connaître la raison qui t'a engagé à me prêter le secours de tes braves archers à l'assaut de la baronnie de Nottingham. Sire, reprit Robin Hood, qui, tout en obéissant à l'ordre du roi, se tint respectueusement incliné devant lui, votre majesté est l'idole des cœurs vraiment anglais. Vos actions, si dignes de l'estime générale, vous ont fait conquérir la gracieuse qualification du plus brave des braves, de l'homme au cœur de lion, qui, en loyal chevalier, triomphe en personne de ses ennemis et étend sur les malheureux sa généreuse protection. Le prince Jean méritait la disgrâce de votre majesté, et lorsque j'ai appris la présence de mon roi devant les murs du château de Nottingham, je me suis secrètement placé sous ses ordres. Votre majesté a pris le château qui servait de refuge au prince rebelle, ma tâche était remplie et je me suis retiré sans rien dire parce que la conscience d'avoir loyalement servi mon roi satisfait mes plus intimes désirs. « Je te remercie cordialement de ta franchise, Robin Hood, répondit Richard, et l'affection que tu me portes m'est fort agréable. Tu parles et tu agis en honnête homme. Je suis content et j'accorde grâce pleine et entière aux joyeux hommes de la forêt de Sherwood. Tu as eu entre les mains un bien grand pouvoir, celui de faire le mal, et tu n'as pas mis en œuvre cette dangereuse puissance. Tu as secouru les pauvres et ils sont nombreux dans le pays de Nottingham. Tu n'as pénétré de courtoises contributions que sur les riches Normands, et cela pour subvenir aux besoins de ta bande. J'excuse tes fautes, elles ont été les naturelles conséquences d'une position tout à fait exceptionnelle. Seulement, comme les lois forestières ont été violées, comme les princes de l'Église et les seigneurs suzerains se sont trouvés dans l'obligation de laisser entre tes mains quelques bribes de leurs immenses trésors, ton pardon demande la validité d'un écrit pour que tu puisses vivre désormais à l'abri de tout reproche et de toute poursuite. Demain, en présence de mes chevaliers, je proclamerai hautement que le bas de proscription, qui te place plus bas que le dernier des serfs du royaume, est complètement annulé. Je te rends, à toi et à tous ceux qui ont partagé ton aventureuse existence, les droits et les privilèges d'un homme libre. J'ai dit, et je jure de maintenir ma parole, par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Vive Richard, cœur de lion ! Crièrent les chevaliers. Que la Sainte Vierge protège à jamais votre majesté, dit Robin Hood d'une voix émue. Et mettant un genou en terre, il baisa respectueusement la main du généreux prince. Cet acte de gratitude accompli, Robin se releva, sonna du cor, et les joyeux hommes, différemment occupés, les uns à tirer de l'arc, les autres à exercer leur adresse au maniement du bâton, abandonnèrent aussitôt leurs occupations respectives et vinrent se grouper en cercle autour de leur jeune chef. « Braves compagnons, dit Robin, mettez tous un genou en terre et découvrez vos têtes. Vous êtes en présence de notre légitime souverain, du roi bien-aimé de la joyeuse Angleterre, de Richard, cœur de lion. Rendez hommage à notre noble maître et seigneur. » Les proscrits obéirent à l'ordre de Robin, et tandis que la troupe se tenait humblement inclinée devant Richard, Robin lui fit connaître la clémence du souverain. « Et maintenant, ajouta le jeune homme, faites retentir la vieille forêt de vos hurrahs joyeux. Un grand jour s'est levé pour nous, mes garçons. Vous êtes libres par la grâce de Dieu et du noble Richard. » Les joyeux hommes n'eurent pas besoin de recevoir un nouvel encouragement à la manifestation de leur joie intérieure. Ils poussèrent un hurrah tellement formidable qu'il n'y a rien d'extraordinaire à supposer qu'il ait été entendu à 2 milles de l'arbre du rendez-vous. Cette bruyante clameur apaisée, Richard d'Angleterre reprit la parole et invita Robin à l'accompagner au château de Nottingham avec toute sa troupe. « Sire, répondit Robin, le flatteur désir que votre majesté daigne me témoigner remplit mon cœur d'une indicible joie. J'appartiens corps et âme à mon souverain, et, s'il veut bien le permettre, je ferai choix parmi mes hommes de 140 archers qui seront, avec un dévouement absolu, les humbles serviteurs de votre très gracieuse majesté. » Le roi, aussi flatté qu'il était surpris de l'humble maintien en sa présence de l'héroïque outlaw, remercia cordialement Robin Hood et, en l'engageant à renvoyer ses hommes à leur jeu un instant interrompu, il prit une coupe sur la table, la remplit jusqu'au bord, l'avala d'un trait et dit, avec une expression de gaieté familière et curieuse, « Et maintenant, ami Robin, dis-moi, je te prie, qui est ce géant là-bas ? Car il me serait difficile de désigner autrement le gigantesque garçon qui a été doué par le ciel d'une aussi honnête figure. » Sur mon âme, je m'étais cru jusqu'à ce jour d'une taille extraordinaire, et je vois bien que si j'étais placé aux côtés de ce gaillard-là, j'aurais l'air d'un innocent poulet. Quelle carrure de membres, quelle vigueur! Cet homme est admirablement bâti. Il est aussi admirablement bon, sire, répondit Robin. Sa force est prodigieuse. Il arrêterait à lui seul la marche d'un corps d'armée, et il s'attendrit avec la naïve candeur d'un enfant au récit d'une histoire touchante. L'homme qui a l'honneur d'attirer l'attention de votre majesté est mon frère, mon compagnon, mon meilleur ami. Il a un cœur d'or, un cœur fidèle comme l'acier de son invincible épée. Il manie le bâton avec une adresse tellement surprenante qu'il n'y a pas d'exemple qu'il ait jamais été vaincu. Avec cela, il est le plus habile archer de tout le pays et le plus brave garçon de toute la terre. Voilà en vérité des éloges qui me sont doux à entendre, Robin, répondit le roi, car celui qui te les inspire est digne d'être ton ami. Je désire causer un peu avec cet honnête human. Comment le nommes-tu ? Jean Nailor, sire, mais nous l'appelons Petit Jean en considération de la médiocrité de sa taille. Par la messe, s'écria le roi en riant, une bande de semblables petits gens eût fort épouvanté ces chiens d'infidèles. Hé, bel arbre forestier, tour de Babylone, Petit Jean, mon garçon, viens auprès de moi, je désire t'examiner de plus près. Jean s'approcha la tête découverte et attendit d'un air de tranquille assurance les ordres de Richard. Le roi adressa au jeune homme quelques questions relatives à la force extraordinaire de ses muscles, essaya de lutter avec lui et fut respectueusement vaincu par son gigantesque partenaire. Après cet essai, le roi se mêla aux jeux et aux exercices des joyeux hommes aussi naturellement que s'il eût été un de leurs camarades et déclara enfin que depuis bien longtemps il n'avait passé une journée aussi agréable. Cette nuit-là, le roi d'Angleterre dormit sous la garde des outlaws de la forêt de Sherwood et le lendemain, après avoir fait honneur à un excellent déjeuner, il se prépara à reprendre le chemin de Nottingham. « Mon brave Robin, dit le prince, peux-tu mettre à ma disposition des vêtements semblables à ceux que portent tes hommes ?»« Oui, sire. Eh bien, fais-moi donner, ainsi qu'à mes chevaliers, un costume pareil au tien et nous aurons à notre entrée à Nottingham une scène quelque peu divertissante. Nos gens d'office sont toujours extraordinairement empressés lorsqu'ils sentent que le voisinage d'un supérieur le met à même de surveiller leur conduite et je suis certain que le brave shérif et ses vaillants soldats nous donneront des preuves de leur invincible bravoure. » Le roi et ses chevaliers revêtirent les costumes choisis par Robin, et après un galant baiser donné à Marianne en l'honneur de toutes les dames, Richard, entouré de Robin Hood, de Jean, de Will Écarlate, de Much et de 140 archers, s'achemina gaiement vers sa seigneuriale demeure. Aux portes de la ville de Nottingham, Richard donna l'ordre à sa suite de pousser un hourra de victoire. Ce hourra formidable attira les citoyens sur le seuil de leurs maisons respectives et, à la vue d'un corps des joyeux hommes armés jusqu'aux dents, ils pensèrent que le roi avait été tué par les outlaws et que les proscrits, aguerris par leur sanglant triomphe, descendaient sur la ville pour massacrer tous les habitants. Éperdus d'épouvante, les pauvres gens s'élancèrent en désordre, les uns dans le recoin le plus obscur de leur demeure, les autres tout droit devant eux. D'autres sonnèrent le tocsin, firent un appel aux troupes de la ville et cherchèrent le grand shérif qui, par un miracle étrange, devint tout à fait invisible. Les troupes du roi allaient faire une sortie dangereuse pour les outlaws lorsque leurs chefs, peu désireux d'entrer en lutte sans connaître la cause du combat, mirent un frein à leur belliqueuse ardeur. « Voici nos guerriers, » dit Richard, en considérant d'un air narquois les craintifs défenseurs de la ville. « Il me semble que les citoyens, ainsi que les soldats, tiennent à l'existence. Le shérif est absent, les chefs tremblent. Vive Dieu, ces lâches mériteraient une correction exemplaire. » À peine le roi achevait-il cette réflexion peu flatteuse pour les citoyens de Nottingham, que ses troupes personnelles, précédées d'un capitaine, sortirent en toute hâte du château, en ligne de bataille et la lance en arrêt. « Par Saint-Denis, mes gaillards ne plaisantent pas !» s'écria le roi en portant à ses lèvres le corps qui lui avait été remis par Aubin. Il sonna deux fois un appel désigné à l'avance au capitaine de ses gardes, et celui-ci, reconnaissant le signal noté par le prince, fit mettre bas les armes et attendit respectueusement l'approche de son souverain. La nouvelle du retour de Richard d'Angleterre, triomphalement accompagnée par le prince des proscrits, se répandit aussi rapidement que s'était répandue la nouvelle de l'approche des outlaws en disposition sanguinaire. Les citoyens, qui s'étaient prudemment séquestrés dans les profondeurs de leur maison, en sortirent le visage pâle mais le sourire aux lèvres. Et aussitôt qu'ils eurent acquis la certitude que Robin Hood et sa bande avaient gagné la faveur du roi, ils s'empressèrent amicalement autour des joyeux hommes, en complimentant celui-ci, serrant les mains à celui-là, se proclamant à l'envi les amis et les protecteurs de tous. Du sein de la foule s'échappaient des cris de joie et de félicitations, et de toutes parts on entendait ces mots complaisamment répétés « Gloire au noble Robin Hood, au brave Youman, au beau proscrit ! Gloire au tendre et gentil Robin Hood !» Les voix, peu à peu enhardies, acclamèrent si hautement la présence du chef des outlaws que Richard, fatigué de cette ascendante clameur, en arriva à s'écrier « Par ma couronne et par mon spectre, il me semble que c'est toi qui es le roi ici, Robin Hood !»« Ah, sire !» répondit le jeune homme en souriant avec amertume. « N'attachez ni importance ni valeur au témoignage de cette apparente amitié. » Elle n'est qu'un vague effet de la précieuse faveur dont votre majesté comble le proscrit. Un mot du roi Richard peut changer en vociférations de haine ces clameurs enthousiastes qu'excite ici ma présence, et ces mêmes hommes passeront aussitôt, sans remords ni réflexion, de l'éloge au blâme, de l'admiration au mépris. « Tu dis vrai, mon cher Aubin, » répondit le roi en riant. « Les coquins sont partout les mêmes, et j'ai déjà acquis la preuve du manque de cœur des citoyens de Nottingham. Lorsque je me suis présenté ici avec l'intention de punir le prince Jean, ils ont accueilli mon retour d'Angleterre avec une réserve pleine de prudence. Pour eux, le droit est celui du plus fort, et ils ignoraient qu'avec ton aide, il me serait facile de m'emparer du château et d'en expulser mon frère. » Maintenant, ils nous montrent le beau côté de leur vilaine figure et nous éclaboussent de leur vile flatterie. Ainsi va le monde. Laissons là ces misérables et pensons à nous. Je t'ai promis, mon cher Aubin, une noble récompense pour le service que tu m'as rendu. Formule ton désir. Le roi Richard n'a qu'une parole. Il tient et réalise toujours les engagements qu'il contracte. « Sire, répondit Robin, votre gracieuse majesté me rend heureux au-delà de toute expression en me renouvelant l'offre de son généreux appui. Je l'accepte pour moi, pour mes hommes et pour un chevalier qui, frappé de disgrâce par le roi Henri, a été obligé de chercher un refuge dans l'asile protecteur de la forêt de Sherwood. Ce chevalier, sire, est un homme plein de cœur, un digne père de famille, un brave Saxon. » Et si votre majesté veut me faire l'honneur d'écouter l'histoire de Sir Richard Gower de la Plaine, je suis assuré qu'elle voudra bien m'accorder la demande que je me permettrai de lui faire. Nous t'avons donné notre parole de roi de t'accorder toutes les grâces qu'il te plaira d'implorer de nous, ami Robin, répondit affectueusement Richard. Parle sans crainte et dis-nous par quel concours de circonstances ce chevalier est tombé dans la disgrâce de mon père. Robin s'empressa d'obéir aux ordres du roi et il raconta le plus brièvement possible l'histoire du chevalier de la plaine. Par Notre-Dame, s'écria Richard, ce bon chevalier a été cruellement traité et tu as noblement agi en lui venant en aide. Mais il ne sera pas dit, brave Robin Hood, que tu puisses, dans ce cas encore, avoir surpassé le roi d'Angleterre en grandeur d'âme et en générosité. Je veux, à mon tour, protéger ton ami. Fais-le venir en notre présence. » Robin appela le chevalier, et celui-ci, le cœur agité par les émotions d'une douce espérance, se présenta respectueusement devant le prince. « Sir Richard de la Plaine, dit gracieusement le roi, ton vaillant ami Robin Hood vient de m'apprendre les malheurs qui ont frappé ta famille, les dangers auxquels tu as été exposé. Je suis heureux de pouvoir, en te rendant justice, témoigner à Robin l'admiration sincère et l'estime profonde que m'inspire sa conduite. Je te remets en possession de tes biens et pendant un an, tu seras libéré de tout impôt et de toute contribution. » Outre cela, j'anéantis le décret de bannissement lancé contre toi, afin que le souvenir de cet acte injuste soit complètement effacé, même de la mémoire de tes concitoyens. Rends-toi au château, les lettres de grâce pleines et entières te seront délivrées par nos ordres. Quant à toi, Robin Hood, demande encore quelque chose à celui qui ne croira jamais avoir payé sa dette de reconnaissance, même après avoir satisfait à tous tes désirs. « Sire, dit le chevalier en mettant un genou en terre, comment puis-je vous témoigner la gratitude qui remplit mon cœur ?»« En me disant que tu es heureux, répondit gaiement le roi, en me promettant de ne plus offenser les membres de la très sainte Église. » Sir Richard baisa la main du généreux prince et s'effaça discrètement dans les groupes réunis à quelques pas du roi. « Eh bien, mon brave archer, répondit le prince en se tournant vers Robin Hood, que désires-tu de moi ?» « Rien pour le moment, sire. Plus tard, si votre majesté veut bien le permettre, je lui demanderai une dernière faveur. »« Elle te sera accordée. Maintenant, rendons-nous au château. Nous avons reçu dans la forêt de Sherwood une généreuse hospitalité et il faut espérer que le château de Nottingham offrira quelques ressources pour composer un royal festin. Tes hommes ont une excellente manière de préparer la venaison et la fraîcheur de l'air, la fatigue de la marche, nous avaient singulièrement aiguisé l'appétit car nous avons mangé en véritable gourmand. Votre Majesté avait le droit de manger à sa guise, répondit Robin en riant, puisque le gibier était son propre bien. Notre bien ou celui du premier chasseur venu, repartit gaiement le roi. Et si tout le monde fait semblant de croire que les daims de la forêt de Sherwood sont notre exclusive propriété, il y a bien un certain Human de ton intime connaissance, mon Robin, et les 300 compagnons qui forment sa joyeuse troupe, qui se sont fort peu inquiétés des prérogatives de la couronne. Tout en causant, Richard se dirigeait vers le château, et les acclamations enthousiastes de la populace accompagnèrent de leurs bruyantes clameurs le roi d'Angleterre et le célèbre proscrit, jusqu'aux portes du vieux manoir. Le généreux prince réalisa le jour même la promesse qu'il avait faite à Robin Hood. Il signa un acte qui annulait le ban de proscription et remettait le jeune homme en possession de ses droits et de ses titres aux biens et aux dignités de la famille des Huntingdon. Dès le lendemain de cet heureux jour, Robin réunit ses hommes dans une des cours du château et leur annonça le changement inespéré de sa fortune. Cette nouvelle remplit les cœurs des braves Human d'une joie sincère. Ils aimaient tendrement leur chef et ils refusèrent d'un commun accord la liberté que Robin voulait leur rendre. Il fut donc arrêté séance tenante que les joyeux hommes cesseraient à l'avenir de lever des contributions sur les Normands et sur les ecclésiastiques et qu'ils seraient nourris et vêtus aux frais de leur noble maître Robin Hood, devenu le riche comte de Huntingdon. Mes garçons, ajouta Robin, « puisque vous désirez vivre auprès de moi et m'accompagner à Londres si les ordres de notre bien-aimé souverain m'y conduisent, vous allez me jurer de ne jamais révéler à personne la situation de notre cave. Réservons-nous ce précieux refuge en prévision de nouveaux malheurs. » Les hommes firent à haute voix le serment demandé par leur chef et Robert les engagea à faire sans retard leurs préparatifs de départ. Le 30 mars 1194, la veille de son départ pour Londres, Richard tint conseil au château de Nottingham et, au nombre des choses importantes qui furent traitées, se trouva l'établissement des droits de Robin Hood au comté de Huntingdon. Le roi témoigna d'une façon péremptoire son désir de rendre à Robin les propriétés détenues par l'abbé de Ramsay et les conseillers de Richard lui promirent formellement de terminer à son entière satisfaction l'acte de justice qui devait réparer les malheurs si courageusement supportés par le noble proscrit.